Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Le CHU de Reims a décidé ce matin d'arrêter les soins de Vincent Lambert. Sa famille, toujours profondément divisée, se succède à son chevet. Ses parents espèrent encore une décision de dernière minute. Les Européennes, Emmanuel Macron monte au front pour le sprint final. Le président a choisi la presse quotidienne régionale pour s'exprimer à 6 jours du scrutin. La colère des taxis, des ambulanciers, des auto-écoles contre la loi mobilité qui, selon eux, met en place une ubérisation de leur profession. Ça a donné une sacrée pagaille dans et autour de la capitale aujourd'hui. Il y a désormais 2 Français dans le couloir de la mort en Indonésie, tous les 2 condamnés pour trafic de drogue. Et puis il va rester, Mbappé jouera encore au PSG l'an prochain, tant mieux pour les supporters parisiens, dommage pour les madrilènes qui étaient prêts à l'accueillir à bras ouverts. Côté météo, le gris va continuer à dominer demain, encore beaucoup de nuages mais un peu moins d'averses, c'est déjà ça. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous aurez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Camille Putois, la fondatrice de K-Solutions. C'est une start-up qui assiste les Français dans leurs démarches administratives et en particulier en ce moment avec la déclaration de revenus.
Europe 1.
Le CHU de Reims a donc enclenché ce matin la procédure d'arrêt des soins de Vincent Lambert. Fin de l'hydratation et de l'alimentation. Elle l'a également placé en sédation profonde afin qu'il ne souffre pas. Cette décision, c'est celle que redoutaient plus que tout ses parents qui ont depuis des années multiplié les recours. Leur requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme a été rejetée aujourd'hui. Ils ont de nouveau saisi, cette fois, le Conseil d'État et la Cour d'appel de Paris qui doit rendre sa décision ce soir. Mais il semble bien que cette fois, un retour en arrière soit compliqué, même s'il est encore matériellement possible. La famille de Vincent Lambert a reçu une autorisation exceptionnelle afin de pouvoir se relayer à son chevet, jour et nuit. Famille très divisée, on le disait. Pour sa maman, en tout cas, l'annonce de l'arrêt des traitements a été un choc.
Vincent, on lui a dit tout ce que voulait lui dire, mais on est en train de l'éteindre petit à petit feu. C'est une honte. Hier après-midi, on a passé tout l'après-midi avec notre fils, docteur Sanchez. Il le savait, c'était programmé. Il s'est permis de nous envoyer un email froidement.
Vous gardez espoir, madame, aujourd'hui?
Quel espoir? Ils sont en train de le sédater. Ça va prendre du temps? On ne sait même pas. C'est un crime, c'est tout. C'est pour faire passer, je vais vous dire. Hein, c'est pour faire passer l'euthanasie. Ça les arrange. Vincent, il est le promoteur de l'euthanasie. Ça les arrange, cette loi Leonetti. C'est une honte. J'ai honte pour la France. J'ai honte pour la médecine. Mon mari qui est médecin, il m'a dit « on enterre Hippocrate ».
La mère de Vincent Lambert au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui. On sait que d'autres membres de la famille souhaitent la fin de cet acharnement. C'est le cas de la femme de Vincent Lambert qui exprime aujourd'hui son soulagement, mais aussi de son neveu François. Pour lui, il n'y avait pas d'autre option que cet arrêt des soins.
C'est la première fois depuis le début de l'affaire que je me dis que ça va se faire. Les autres fois, j'étais convaincu que ça n'allait pas se faire ou qu'il y avait des pseudo-coups de théâtre en préparation ou des reculs programmés du CHU. Là, c'est la première fois que je me dis que ça va se faire et tout est fait pour que ça se fasse. Et donc, je suis assez serein et j'espère que les parents de Vincent, par exemple, ne vont pas essayer de le nourrir ou d'hydrater en loose-dé pour essayer de prolonger son agonie, par exemple. J'espère que l'équipe médicale sera vigilante parce que je pense que Vincent a besoin de calme, effectivement. Il n'a pas besoin de tout ce ramdam. Voilà, si le ramdam reste à l'extérieur de l'hôpital et si l'hôpital est totalement épargné, qu'il y a un espèce de cercle comme ça qui est inatteignable, c'est une très bonne chose. J'espère que c'est ce qui va se passer pour lui et pour l'équipe médicale.
Le neveu de Vincent Lambert, François, le médecin justement, a dit espérer que les proches sauront se rassembler afin que ces derniers moments soient les plus paisibles possibles. Dans un tweet explicite cet après-midi, même s'il ne cite pas directement Vincent Lambert, le pape François appelle à protéger la vie du début à la fin naturelle. Ne cédons pas à la culture du déchet, écrit-il. Quant à Emmanuel Macron, il se dit profondément touché par la situation de la famille Lambert, mais il estime qu'il ne lui appartient pas de trancher ni de s'immiscer dans une décision de soins et de droit. Le chef de l'État qui, on le sait, s'investit dans la campagne pour les Européennes. On est maintenant à 6 jours du scrutin et demain, dans vos kiosques en région, vous allez découvrir une interview du président de la République. Jean-Rémy Baudeau, vous suivez l'Élysée pour Europe 1. Emmanuel Macron a donc choisi la presse régionale pour s'exprimer à quelques jours du vote.
Oui, à l'Élysée, cela fait des semaines qu'on travaille la forme que devait prendre une intervention présidentielle à quelques jours du scrutin des Européennes. Une radio, une télévision, ça a été finalement écarté. Ce sera donc la PQR, la presse quotidienne régionale. Un conseiller du président me confiait ce matin, c'est un moyen très direct de parler aux Français. Concrètement, cet après-midi, une petite dizaine de journalistes ont été reçus à l'Élysée. Ils représentaient chacun l'un des groupes de presse de région. On ignore encore pour l'heure ce que contiendra l'entretien, mais l'Élysée fait savoir que le président devait plaider en faveur de l'Europe et de son projet européen. L'Élysée promet que les questions n'ont pas été communiquées à l'avance et que les échanges sont libres. Mais notons que les médias présents ont accepté quand même une règle du jeu, que le texte soit relu par l'Élysée, une pratique relativement courante en presse écrite officiellement pour éviter les erreurs ou les chiffres erronés. Cette relecture a été néanmoins rejetée par La Voix du Nord, qui ne publiera donc pas l'interview demain matin. Politiquement, cette interview, elle s'inscrit dans la stratégie du chef de l'État de s'investir dans la campagne européenne. Il était ce week-end sur des affiches de la liste Renaissance. Il parlera donc Europe dans la presse demain. Il reste encore quelques jours. L'Élysée laisse planer le doute sur une participation à un meeting. Un ministre me confie aujourd'hui, après la presse régionale, je ne peux pas imaginer que ça s'arrête là. Qu'on se le dise, le président Macron est en campagne européenne.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. À quoi joue Steve Bannon, l'ancien conseiller sulfureux de Donald Trump? La présence de l'ancien stratège à Paris à quelques jours du scrutin européen est dénoncée par La République En Marche, qui voit une ingérence dans la campagne. Steve Bannon est en effet, semble-t-il, venu soutenir le Rassemblement national dans la dernière ligne droite pour ces européennes, ce dont se défend Marine Le Pen, qui assure qu'il n'a aucun rôle dans cette campagne. Ils voulaient faire entendre leur voix, et bien ils ont réussi. Les taxis, les représentants d'auto-écoles, les ambulanciers ont sérieusement perturbé la circulation aujourd'hui en région parisienne. Opération Escargot pour dénoncer la loi mobilité trop favorable, selon eux, au VTC. Loi qui est examinée en ce moment. Écoutez, Mahmoud, il est chauffeur de taxi et très remonté.
Quand on joue le même jeu et quand on fait le même métier, on doit avoir les mêmes règles, les mêmes devoirs et les mêmes obligations. Seulement le taxi, on lui donne des obligations qu'on ne donne pas aux autres. Nous, on paye 240 000 euros notre licence. Eux, ils ne payent rien. Nous, on nous dit, c'est pas bien, il faut que vous travaillez qu'en 11 heures parce qu'au-delà, c'est dangereux pour le passager. Mais le VTC, apparemment, c'est pas un passager qui le transporte, c'est des cartons. Parce que lui, il travaille 24 sur 24 et on lui dit rien. Notre métier, en fait, il est tiré vers le bas. On nous enlève pour nous précariser comme le VTC. Moi, je veux pas être l'esclave dans mon métier. Moi, quand je travaille, c'est parce que je considère que le travail me libère. Mais là, je vais devenir l'esclave. Eh ben non, moi, jamais je serai l'esclave dans mon métier.
Un chauffeur de taxi mobilisé ce matin à Paris, il répondait à Chanel Petit. Le procès Balkany est entré dans sa deuxième semaine. Après avoir jugé le volet fraude fiscale, le tribunal se penche désormais sur les accusations de blanchiment et de corruption. Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Et ils sont désormais deux Français dans le couloir de la mort en Indonésie. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et Paris se dit préoccupé par la condamnation à mort d'un Français en Indonésie. Félix Dorfin, originaire de Béthune, a été arrêté en septembre dernier. Le procureur avait requis 20 ans de prison et une amende de près de 600 000 euros. Mais le juge de l'île de Lombok a retenu une circonstance aggravante, l'appartenance de Félix Dorfin à un réseau international de trafic de drogue, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, et c'est la quantité de drogue saisie sur lui qui n'a visiblement pas plu. Près de 4 kilos de cocaïne et d'ecstasy cachés dans le double fond de sa valise alors qu'il arrivait de Singapour. L'autre élément que les juges n'ont probablement pas apprécié, eh bien c'est sa tentative d'évasion. 11 jours de cavale dans la jungle en janvier après avoir, selon les autorités, monnayé son évasion. Il aurait proposé 1000 dollars à une complice, une policière qui l'aurait aidé à s'échapper. Félix Dorfin aurait aussi tenté de soudoyer les agents qui l'ont retrouvé quelque peu hirsute au milieu de la forêt. Quoi qu'il en soit, Raphaël Chenuyazan, directeur général d'Ensemble contre la peine de mort, ne comprend pas comment le président réélu Joko Widodo, surnommé Jokowi, laisse faire cela.
Malgré la réélection de Jokowi, il y avait encore cette vision de la peine de mort comme seule réponse au trafic de drogue. Et on avait l'espoir quand même qu'il puisse échapper à cette sentence. À un moment, c'est aberrant de pouvoir se dire qu'on va au-delà de ce qui est requis par les pouvoirs publics, juste. Il faut se poser la question maintenant du pourquoi on va au-delà.
Et pourquoi ce type de peine est encore prononcé en Indonésie? Car elle n'est plus appliquée depuis 2016, depuis que le président a demandé un moratoire. Mais moratoire ou pas, ces exécutions peuvent reprendre à tout moment. Félix Dorfin souhaite faire appel de la décision. En attendant, il se trouve dans la même situation que Serge Atlaoui, un autre Français dans les couloirs de la mort en Indonésie, en sursis, lui, depuis 2015.
Jean-Sébastien Soldaini, dans l'actualité également, un chiffre en hausse, celui du nombre de disparitions de chiens et de chats. Et bien sûr, à chaque fois, c'est un drame pour leur maître. Près de 80 000 animaux ont été déclarés perdus l'an dernier. Lors d'Autriche, si on fait le calcul, chaque heure, ça fait 3 chiens et 6 chats qui disparaissent en France.
Oui, selon le fichier national d'identification des carnivores domestiques, un chien est déclaré perdu par son maître donc toutes les 20 minutes et un chat toutes les 10 minutes. Pour les chiens, on trouve en majorité des labradors, puis des terriers Jack Russell et des bergers allemands. Alors, il y a des animaux qui fuguent, d'autres qui se perdent, d'autres encore qui sont abandonnés. Près de 80 000 animaux, vous le disiez, ont été déclarés perdus en 2018, un chiffre qui est en augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Cela ne veut pas dire qu'il y a plus d'animaux qui disparaissent, mais simplement que de plus en plus d'animaux sont identifiés. C'est ce qu'explique Rémi Gelé, vétérinaire et vice-président du fichier national d'identification des carnivores domestiques.
Plus on a d'animaux qui ont été identifiés par une puce électronique mais sous la peau par un vétérinaire ou par un tatouage, plus on a de déclarations du coup d'animaux perdus, disparus.
Alors la loi oblige les propriétaires à identifier leurs chiens et leurs chats par un tatouage ou une puce, mais tous ne le font pas. Difficile toutefois d'obtenir un chiffre fiable sur le nombre d'animaux retrouvés, car si tous les propriétaires font souvent une déclaration lorsque leur animal disparaît, ils oublient très régulièrement de signaler qu'ils ont retrouvé leur chien ou leur chat lorsque c'est le cas.
Les précisions de l'ordre d'Autriche.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Et cette petite phrase lâchée hier soir et qui a fait l'effet d'une bombe, Kylian Mbappé veut plus de responsabilités. Il l'a fait savoir, davantage de responsabilités au PSG ou ailleurs, pourquoi pas en Espagne. Henri de Laguérie, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Ce qui est sûr, c'est qu'à Madrid, le message a été reçu 5 sur 5.
Oui, d'autant que vous savez, Mbappé et le Real, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. En 2012, le Français a 14 ans et déjà, il se rend à Madrid à l'invitation de Zidane pour visiter les installations du club. Il se prend en photo avec son idole, Cristiano Ronaldo. Mais finalement, il rejoindra Monaco. 7 ans plus tard, le Real vient de réaliser sa pire saison en 20 ans. Tout est à reconstruire et donc pour ce nouveau projet, le club rêve de Mbappé. « Je serais ravi de l'entraîner », avait dit Zidane. Pour le moment, le club ne s'est pas exprimé sur cette phrase choc, mais il est prêt à faire des folies et dépenser 250 voire 300 millions d'euros pour l'attaquant du PSG. Après avoir remporté 3 Ligues des Champions consécutives, Madrid a du cash. Ils iront chercher l'argent sous terre s'il le faut, me dit un confrère espagnol. Le président du club, Florentino Pérez, sait que ce sera compliqué. Mais Mbappé n'a que 20 ans, Madrid n'est pas pressé. Et si ça ne marche pas cet été, ils retenteront l'année prochaine.
Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Et dommage pour Madrid, puisqu'a priori Mbappé restera bien à Paris. Le PSG assure ce soir que leur histoire commune n'est pas terminée. Elle se poursuivra, dit-il, la saison prochaine. Le coup d'envoi du tournoi de tennis de Roland-Garros, ça se rapproche. Ce sera le dimanche 26 mai, comme les élections européennes. En ce moment, ce sont les qualifications pour les deuxièmes tours des qualifs. Ils sont 6 à avoir franchi la première étape. Et parmi eux, un certain Manuel Guinard, 23 ans, 420e joueur mondial. Un Breton qui vient donc de jouer son premier match à Roland-Garros avec beaucoup, beaucoup de fierté.
Incroyable, j'ai pas d'autre mot quoi. Devant mes amis, devant ma famille, c'est les émotions qu'on vit qu'une fois dans sa vie et je sais pas vraiment, je réalise pas trop encore. J'attendais, enfin c'est un rêve pour moi de jouer dans un grand chelem, encore plus à Roland-Garros. Mais gagner un match à Roland-Garros et en qualif, c'est incroyable. Donc je suis un peu.
Manuel Guinard! Au micro Europe 1 de Corinne Boulot, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. Et avec tout ce qu'il a plu ces derniers temps, on espère que ce sera plus calme sur Roland-Garros. La météo, c'est tout de suite et c'est avec vous, Valérie Darmon. On va faire un tour d'horizon, région par région. On commence par l'Est.
Et oui, sur le Grand Est, le ciel sera couvert ou très nuageux avec peu d'éclaircies et des averses possibles entre la Lorraine et l'Alsace. Sur l'Auvergne et sur Rhône-Alpes, le soleil va percer à la mi-journée, mais de nouveaux nuages vont se développer dans le courant de l'après-midi. De PACA à la Corse, le ciel est bien dégagé, sauf près des littoraux des Alpes-Maritimes où il va continuer de pleuvoir en ce mardi. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, beaucoup de brouillard ce mardi matin avant le retour de très belles éclaircies. Et puis des Pays de la Loire à la Normandie, sur les Hauts-de-France, en passant par le bassin parisien. Là aussi, beaucoup de brumes et de brouillards en matinée, notamment de l'intérieur de la Bretagne à la Normandie, et puis le retour d'une alternance de passages nuageux et d'éclaircies dans la journée. Les températures de l'après-midi sont en légère hausse entre 17 à Aurillac et 25 à Nîmes, 19 annoncés à Nice et La Rochelle ainsi que Brest, 20 à Dijon et Besançon ainsi qu'Évreux, 21 à Charleville, à Bordeaux et à Paris, 22 à Carcassonne et 24 à Marseille.
La météo signe Valérie Darmon.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir la fondatrice de K-Solutions. C'est une start-up qui assiste les Français dans leur démarche administrative. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse et c'est avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et le conflit entre Washington et le chinois Huawei qui pèse à Wall Street ce soir.
Oui, la semaine démarre en baisse pour les indices. Le Dow Jones perd 0,33%, 25 680 points. Le Nasdaq chute de 1,46%, 7 702 points. C'est la conséquence du bannissement du chinois Huawei des marchés américains. Il a été placé sur une liste noire et ça plombe plusieurs géants technologiques, Google notamment, qui va cesser de fournir ses services aux smartphones de Huawei, selon la presse. Le titre Google perd 2% puisque ça va représenter une importante baisse de part de marché. Les fabricants de semi-conducteurs vont eux aussi devoir arrêter de vendre leurs composants à l'équipementier télécom chinois. Et ça provoque de gros dégâts. Les géants Qualcomm et Broadcom lâchent 6% ce soir. Apple aussi est touché. L'action chute de 3%. Là, les investisseurs craignent plus globalement une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis qui pourraient impacter le fabricant de l'iPhone. Donc c'est très tendu ce soir sur les marchés. À New York, le pétrole gagne 0,5%, 63$ le baril. Et l'euro progresse plus 0,1%, 1,1168$.
Et cette semaine, Claire démarre mal également pour le marché parisien.
Avec un repli de 1,46% pour le CAC 40, 5 359 points. À Paris aussi, le secteur des semi-conducteurs boit la tasse à cause de ces sanctions américaines à l'encontre de Huawei. ST Microelectronics plonge de 9%, Soitec chute de 7,6%. Et une séance compliquée aussi pour Ryanair qui pèse sur l'ensemble du secteur aérien européen. La compagnie à bas coût irlandaise a dévoilé son plus faible bénéfice en 4 ans. Une mauvaise nouvelle qui affecte bien sûr Air France KLM à Paris. Air France perd 2,6%.
Et ça baisse aussi pour les laboratoires Boiron. Vous nous en parliez d'ailleurs déjà la semaine dernière.
Oui, la cotation avait été suspendue jeudi à la demande de Boiron. Alors le titre a plongé de 13% environ ce matin pour sa reprise avant de remonter. Ce soir, on est sur une baisse de 4% à la clôture. Boiron souffre toujours des craintes d'un déremboursement des granules homéopathiques en France. Et puis peu de valeurs résistent ce soir. On a Orange et Total dans le vert sur le CAC 40. Les marchés européens souffre du conflit entre la Chine et les États-Unis, moins 0,6% pour Londres, moins 1,6% pour Francfort, Amsterdam moins 1,2%, Bruxelles moins 1,9%, Madrid moins 0,9%, Milan plonge même de 2,7% et le CAC 40, Isabelle, perd 1,5%, 5 359 points.
Eh bien merci pour ce tour d'horizon très complet, Claire Lemaître de boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir la fondatrice de K-Solutions.
Bonsoir Camille Putois.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la fondatrice de K-Solutions. Vous nous aidez à réaliser nos démarches administratives. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est notamment parce que vous nous aidez en ce moment même à déclarer nos revenus sur Internet. Ce qui est intéressant dans votre solution que vous venez de lancer, vous analysez les deux derniers avis d'imposition de l'utilisateur et vous nous expliquez comment déclarer au mieux nos revenus 2018. Vous faites ça comment ?
Alors, K-Solutions veut rendre les choses plus simples. Les démarches, c'est parfois simple, mais c'est souvent compliqué. Pour l'aide à la déclaration de revenus qu'on propose, on demande d'abord à la personne l'autorisation de se connecter à son compte impôts.gouv. Mmh. Et là, effectivement, on va aller regarder ses deux derniers avis d'imposition pour pouvoir lui faire des recommandations personnalisées. Mmh. Donc, par exemple, si la personne elle a des enfants, on va vérifier que les années passées, elle a bien déclaré la scolarité de ses enfants. Si elle ne l'a pas fait, on va lui dire « déclarez-la ». Mmh.
Le but, c'est quoi ? C'est de faire des économies grâce à vous en pensant à tout ou c'est juste de bien faire sa déclaration, ce qui est parfois effectivement pas si simple ?
C'est pas si simple, même quand on pense être dans des cas assez courants. C'est pas si simple que ça, sauf à être hyper informé ou à passer beaucoup de temps sur le net, ce qu'on n'a pas, et on n'a pas forcément le temps. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faire gagner du temps. Vraiment réduire l'anxiété qui est liée aux démarches et puis aider chacun à faire valoir l'ensemble de ses droits. Et donc c'est pour ça qu'on va d'abord, on va pas poser 36 questions à l'utilisateur, on lui demande l'autorisation d'aller dans son compte impots.gouv, donc c'est un robot naturellement, et on lui dit exactement ce qu'on va aller regarder et on va lui faire des recos.
Donc c'est nous aider et quand même, au bout du bout, peut-être de faire quelques économies dans certains cas.
Oui, naturellement. Naturellement, ça fait gagner du temps. Et s'il y a des droits qu'on n'avait pas vus, des droits très simples ou plus compliqués qu'on n'avait pas vus, naturellement, ça permet de bénéficier de l'ensemble des dispositions fiscales et donc de faire valoir ses droits.
Qui va nous conseiller ? C'est-à-dire que là, vous disiez par exemple que c'est un robot qui va aller regarder sur les deux derniers avis, mais j'imagine que le robot n'est peut-être pas encore assez intelligent pour nous dire « Tiens, là, il y a une petite erreur, je crois que vous faites appel à... » des anciens fiscalistes, des anciens hauts fonctionnaires qui, eux, connaissent par cœur les déclarations de revenus ?
Exactement. Le principe de base de Cassolution, c'est que tout ce qu'on conçoit, et bien entendu l'aide humaine qui est apportée ensuite, on pourra en reparler quand les sujets sont très compliqués, ce sont des anciens fonctionnaires ou des fonctionnaires qui l'apportent. Enfin, surtout des anciens fonctionnaires, naturellement. Et pas forcément des anciens hauts fonctionnaires. Par exemple, un de nos piliers de l'aide qu'on apporte sur les sujets fiscaux, c'est une ancienne agence des impôts, qui a plus de 30 années de carrière aux impôts et qui a pris récemment sa retraite.
Comment vous avez eu l'idée, vous, de lancer ça ? C'est parce que vous-même, vous étiez un peu phobique administrative et c'était le stress quand il fallait le faire. Vous vous êtes dit, oulala, tous mes amis m'en parlent, il doit y avoir un petit intérêt autour de cela. Comment est née l'idée ?
Alors moi, je suis ancienne fonctionnaire. J'ai 12 ans d'administration, donc je connais assez bien l'administration et je voyais autour de moi, et pas seulement autour de moi, c'est quelque chose d'assez fréquent, beaucoup de gens reculer face à la paperasse administrative parce qu'elle leur semble compliquée. Et quand on la connaît, on sait qu'il y a des choses qui peuvent aider beaucoup de monde. Notre cible, c'est pas les gens riches, c'est des gens comme vous, comme moi, des classes moyennes qui ont, ils ont de temps en temps une déclaration à faire, une démarche administrative à faire. On les fait.
Oui, là, je suis sûr qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont en train de se dire, c'est bien gentil tout ça, mais ça coûte combien ?
Alors, on est en version bêta.
Bêta, c'est-à-dire que vous êtes en train de tester pour
le moment. Voilà, pardon, excusez-moi pour ce jargon. On teste. Donc, on est une start-up. Ce qu'on vient de lancer est vraiment, vraiment très récent. Et bah, pardonnez-moi, là, je vais prendre un petit jargon, mais qui n'est plus trop du jargon. On cherche un business model, donc un modèle de revenu. Et l'objectif, c'est de toucher vraiment tout le monde.
Le moment, c'est gratuit.
Pour le moment, c'est gratuit et tout ce qui est démarche de base restera, aide aux démarches de base restera gratuit. Donc là, en ce moment, c'est la première étape et l'objectif, en fait, c'est de couvrir toute la vie administrative des individus.
Oui, c'est ça, parce que là, moi, j'ai pris l'exemple de la déclaration de revenus parce que c'est le moment. Attention, il ne vous reste plus que quelques jours, chers auditeurs, pour ceux qui le font sur Internet. Mais effectivement, vous voulez devenir un peu le site de référence au niveau de toutes les démarches administratives.
Exactement. Le projet est très ambitieux. Aujourd'hui, on propose une aide sur les impôts, mais vous pouvez aussi construire votre tableau de bord et agréger sur notre site 6 de vos comptes administratifs, donc impôts, CAF, Amélie, CESU, c'est-à-dire les chèques emploi-service, droits à formation et vos soldes points de permis de conduire. Et l'objectif, c'est que vous ayez en un seul endroit le suivi de l'ensemble de votre situation administrative. Et c'est une évolution qui est un peu comparable à celle qu'il y a eu dans les agrégateurs bancaires. Si vous vous souvenez, qui sont apparus il y a 10-15 ans.
L'idée, c'est de faire, vous prenez l'exemple des agrégateurs bancaires, par exemple, pour ceux qui en ont, on reçoit un petit texto pour nous dire, attention, là, vous êtes à découvert sur tel compte, il faut peut-être mettre un peu de sous. D'habitude, vous faites ça à ce moment du mois, là, vous devriez peut-être le faire. Est-ce que vous aussi, vous voulez devenir ce conseil, c'est nous dire, attention, là, il faut payer votre femme de ménage, la déclarer sur le CESU, là, attention, vous avez oublié votre feuille de soins ou je ne sais trop quel exemple donner. Vous voulez vraiment tout faire pour nous, c'est ça l'idée derrière ?
C'est exactement ça. Et justement, en ce moment, on est en train de travailler sur des alertes. Attention, dans 2 jours ou demain, vous allez avoir le prélèvement de votre acompte trimestriel, mensuel. Ensuite, quand on verra une anomalie dans le compte d'une personne, par exemple son compte Amélie, médecin traitant pas enregistré, on dira, attention, il faut que vous déclariez votre médecin traitant. Ou quand la mutuelle n'est pas enregistrée sur votre compte Sécu, on le dit, votre mutuelle n'est pas enregistrée, enregistrez-la si vous en avez une, ça vous évite de la paperasse. Donc oui, on envoie des alertes pour ne pas oublier des dettes limites, et puis on fait des recos. Alors, plus complexe, c'est celle dont on a parlé au début sur l'aide à la déclaration de revenus.
Mais après, finalement, est une aide du quotidien dans nos démarches. Un grand merci, Camille Putois, d'être passée ce soir par les studios d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Cassolution. Nous, on se retrouve demain, 22h20, toujours sur Europe 1.
À demain, évidemment. Merci, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro. Gagnez du temps en imprimant vos timbres depuis votre bureau, selon vos besoins, à n'importe quelle heure de la journée.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin à la une de vos quotidiens. Vincent Lambert, question de vie et de mort, titre le journal Libération, qui rappelle que l'équipe médicale a interrompu ce matin les traitements, maintenant en vie l'ancien infirmier, plongé depuis 2008 dans un état irréversible. Épilogue annoncé d'une affaire hors norme qui met la France face à ses hésitations bioéthiques. Libération nous apprend qu'en Belgique, on n'aurait pas eu droit à tous ces errements et ces rebondissements. La Belgique qui, sur la question, a une longueur d'avance. Le pays a voté trois lois qui permettent de ne plus confondre euthanasie, arrêt de traitement et sédation profonde et qui facilitent la communication sur la question. Trump, Chine, la nouvelle guerre technologique, titre le journal Les Échos. Plusieurs géants américains dont Intel et Google coupent les ponts avec Huawei. Les marchés financiers mondiaux s'inquiètent de la réaction de la Chine. On en parlait tout à l'heure avec Claire Lemaître. Le déploiement de la 5G est menacé dans le monde par l'escalade sino-américaine qui est également à la une du Figaro demain. Guerre commerciale, Trump frappe un grand coup contre la Chine. Pouvoir d'achat, la vérité si je mens, titre le journal L'Opinion. Qui veut gagner des milliards? Comme pour la température, l'écart entre le thermomètre des baisses d'impôts et le ressenti des Français peut varier. Les promesses des semaines passées laissent les contribuables incrédules. Quel euro pour quelle Europe, s'interroge pour sa part l'humanité. Peu présente dans les débats, la transformation de la monnaie unique reste essentielle pour permettre de nouveaux financements, écrit le journal. Et puis la jeunesse algérienne est à la une du journal La Croix. Ces jeunes qui portent la contestation. Le mouvement a commencé il y a 3 mois et il se poursuit toujours de manière pacifique. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Très bon début de semaine à vous Sophie.
À vous aussi, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.